Kiosque Magazine.
Bon matin, bonjour à tous. Nous sommes le 29 avril 2015 et aujourd'hui, il y a un air de printemps. Bienvenue sur les ondes de CanAM dans le kiosque magazine Santé, Cuisine et Maison. Ici, on prend soin de votre corps, votre psyché et votre environnement. Je vous souhaite une belle journée, j'espère que vous aurez plaisir en notre compagnie. Au micro, Safia Larabi, aux côtés de Dominique Millet.
Bonjour Safia.
Bonjour et Louise Mercier.
Bonjour Safia.
Alors Dominique, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ?
Eh bien, moi je parlerai des bienfaits des thérapies par les arts et ensuite un petit papier sur prendre l'avion n'a plus rien de planant. Oh. C'est, on part bientôt en vacances, donc voilà.
Parfait, Louise.
Moi, je vais parler des parents zen, en fait, qui font des choses que, qui ne sont peut-être pas le réflexe habituel. Et puis, les chaînons manquants, qui parlent des beaux-parents, des parents qui que leurs amoureux ont des enfants, et pédaler au boulot.
D'accord. Quant à moi, je vous parle aujourd'hui du classement des pays où il fait le mieux bon vivre et le niveau de satisfaction des habitants, dont le Québec, ainsi que l'argent fait-il le bonheur et les petites questions de microbiologie avec le rôle des bactéries dans nos cosmétiques et les agents de conservation. À tout de suite. L'argent ne fait pas seul le bonheur. C'est un article du 25 avril 2015 tiré de Perspective et écrit par Éric Desrosiers. L'argent ne fait pas le bonheur, ou plutôt, il ne le fait pas seul. Les autres facteurs peuvent même être si importants qu'il arrive que l'un et les autres suivent des trajectoires opposées. L'adage est vieux comme le monde, mais il intéresse un nombre grandissant d'experts et de gouvernements. Cela tient peut-être en partie au fait que de plus en plus d'outils, de mesures et de données sont disponibles. Cela découle sans doute ainsi de la nouvelle démonstration faite par les dérèglements climatiques, la montée des inégalités et l'effondrement des marchés financiers que la croissance du fameux produit intérieur brut n'est pas une garantie de progrès de la qualité de vie. Un groupe d'experts a dévoilé cette semaine une nouvelle version de leur rapport sur le bonheur mondial, basé entre autres sur le niveau de satisfaction exprimé par les gens à l'égard de la vie. Comme toujours, les premiers rangs sont accaparés par les pays de l'Europe du Nord, auxquels se mêlent entre autres la Suisse, mais aussi le Canada au cinquième rang. Habitué d'arriver le premier parmi le pays des G7 dans ce type de classement, les États-Unis au 15e arrivent cette fois juste derrière le Costa Rica. À l'autre bout, on trouve les pays les plus pauvres tels que l'Afrique subsaharienne et entre deux, les économies émergentes. Le Brésil arrive ainsi 16e position juste derrière le géant américain. Au Canada, les écarts sont bien minces entre les villes, rapporté aussi cette semaine Statistique Canada dans une autre étude sur le sujet. Le Québec et les plus petites collectivités apparaissent toutefois un peu plus heureux. Saguenay, Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke et Montréal se classent parmi les premières au pays. Six variables expliquent les trois quarts des différences entre les pays en matière de satisfaction à l'égard de la vie, disent les experts du rapport du bonheur mondial. Outre la richesse mesurée par le PIB par habitant, on cite la santé, nombre d'années de vie en santé, la solidarité sociale, le fait de pouvoir compter sur l'aide de quelqu'un d'autre en cas de besoin, la liberté, le sentiment de pouvoir choisir son destin, la confiance, le faible taux de corruption, et la générosité. Avez-vous effectué un don récemment ? Concernant le classement du Québec, j'ai devant moi les petites villes les plus, où le niveau de satisfaction dans les régions métropolitaines de recensement, le Saguenay a une note de 8,2, c'est-à-dire que c'est la ville où les habitants se sentent le plus heureux au Québec. Je ne sais pas si vous y avez déjà été, juste après Trois-Rivières. Et ensuite, St. John's. Québec arrive en 4e position. Quant à Montréal, nous avons ici un score de 8,0. Qui est très bien classé.
Mmh.
Les gens qui dépensent sur des expériences plutôt que sur des biens sont plus heureux. C'est un article de Laurie Bergeron au Journal de Montréal du 20 avril 2015. Le jour de paye est définitivement la plus belle journée de la semaine. Et il n'est pas rare que le compte en banque se vide plus rapidement que prévu. La satisfaction liée à l'achat de différents biens matériels peut devenir une véritable dépendance et confirme ainsi que l'argent n'achète pas le bonheur. Une étude partagée par le site de divertissement Elite Daily révèle que les gens qui utilisent leur argent pour vivre de belles expériences sont plus heureux que ceux qui possèdent beaucoup d'objets dispendieux. L'étude publiée dans le Journal of Positive Psychology démontre que les personnes qui investissent une grande somme sur des biens dévaluent leur valeur immédiatement après avoir reçu la facture. Les chercheurs de l'Université d'État de San Francisco ont conclu que la plupart des gens savent que les souvenirs sont plus importants que les possessions matérielles, mais qu'ils se sentent coincés dans le cercle sans fin des tendances et de la demande. Les participants ont tout de suite regretté avoir dépensé leur argent sur des objets plutôt que sur des expériences, car celles-ci rendent le bonheur moins éphémère. Les recherches menées à l'Université Cornell ont révélé que la génération Y ressent une certaine pression de la société à faire des achats extravagants. Ces personnes exhibent leurs possessions pour s'auto-promouvoir sur les médias sociaux et ainsi recevoir l'approbation de leur père. Le professeur de psychologie Thomas Gilovich travaille depuis longtemps à la relation entre l'argent et le bonheur. Selon lui, les choses que nous achetons nous rendent heureux et nous mènent au succès. Brièvement, les nouveaux biens sont excitants, mais nous nous y adaptons. Il explique que nous avons beau nous identifier à des biens matériels, ceux-ci ne nous définiront jamais. À l'opposé, les expériences de vie comme des voyages ou des soirées entre amis font partie de nous. Un être humain est la somme de ses expériences, conclut-il.
Alors, mon premier article, « Les chaînons manquants », qui a été paru le 27 avril dans la Presse Plus, écrit par Alexandre Vigneault. « J'aime ça quand mes enfants m'appellent papa, avoue Yves Parent, qui est devenu père sur le tard. Ce n'est pas seulement parce qu'il considère ses enfants comme un cadeau de la vie que ça lui fait un petit velours de les entendre. Il croit fermement que les mots nous forment. » S'il n'y a pas un mot pour nommer la relation qu'on a avec quelqu'un, il y a un vide, estime cet ingénieur. Ce manque, il l'a ressenti devant l'autre enfant qui est dans sa vie, le fils de son ex-conjointe, avec lequel il a vécu pendant près de 10 ans. Pour cet enfant, aujourd'hui adolescent, il était une figure paternelle, tantôt désignée comme le beau-père, tantôt comme l'amoureux de maman, à défaut d'autre chose. Il n'y a pas de connotation affective dans beau-père, regrette-t-il. Moi, j'ai senti que ça faisait une différence dans ma relation avec cet enfant. Julie, elle, se contente d'être présentée comme l'amoureuse du père, même si elle souhaiterait trouver mieux. Je préfère aussi belle-maman à belle-mère, précise-t-elle, parce que les belles-mères sont toujours méchantes dans les histoires. Les êtres humains comprennent les choses en les nommant. Quand on découvre une nouvelle planète, la première chose qu'on fait, c'est lui donner un nom ou un numéro. On met du signifiant sur ces choses-là. Maxime-Olivier Moutier, psychanalyste et écrivain. Il croit aussi qu'il faudrait inventer de nouveaux mots pour parler de la réalité des familles recomposées et des relations qui s'y développent. Avec Internet, on a aussi vu plein de nouveaux mots arriver rapidement, fait valoir le psychanalyste. Une nouvelle réalité naissait et tout de suite, on l'a nommée, alors que la famille a changé aussi rapidement, mais c'est comme si les inventions linguistiques étaient encore plus à la remorque de la réalité. Des mots à inventer. La langue est toujours le reflet de la société, précise la linguiste et lexicographe Marie-Eva de Villers. Parfois, elle met plus de temps à réagir. Elle ne connaît pas de mots pour décrire le lien précis d'un homme ou d'une femme avec l'enfant de son partenaire de vie. On décrit ces réalités, mais on se satisfait en quelque sorte des mots qui existent déjà, constate-t-elle. On continue de dire beau-père, belle-mère. La caractéristique de la langue de la fin du 20e et du début du 21e siècle, c'est que les mots spécialisés entrent dans la langue courante, précise l'auteur du Multidictionnaire de la langue française. Les nouveaux mots, ce ne sont pas des mots généraux, mais des mots spécialisés, liés au domaine des nouvelles technologies, de la science ou de l'environnement. Qu'à cela ne tienne, avec des amis, Yves Parent a tenté d'inventer ces chaînons manquants du vocabulaire familial. Au lieu de beau-père, il a pensé à spare, de spar en anglais. Au lieu de belle-mère, ils ont fabriqué intérimaire. Ces néologismes, insatisfaisants de l'aveu de M. Parent lui-même, ont surtout été lancés à la rigolade. Marie-Eva de Villers souligne que dans certains cas, un nouveau mot n'est pas nécessaire. Élargir la définition d'un terme qui existe déjà peut suffire. C'est ce qu'elle compte faire avec le mot « beau-frère », par exemple, le conjoint de la sœur ou du frère, de manière à intégrer la réalité du mariage homosexuel. Ce changement ne sera pas en vigueur dans l'édition du Multi à apparaître cette semaine, mais dans la suivante. À ceux qui, comme Yves Parent, attendent le mot juste et fort, elle dit ceci. « Créer un nouveau mot est difficile, et il y a de belles trouvailles qui ne marchent pas. » Au sujet d'un néo-vocabulaire familial, elle ajoute « Cela va émerger, c'est inévitable. » On passe maintenant à l'activité physique, donc « pédaler au boulot », écrit par Marie-France Léger dans la presse Plus, encore une fois, du 28 avril. Alors, depuis quelques années, les études qui prouvent les bienfaits du bureau actif s'accumulent. On entend par là l'accomplissement d'un exercice modéré au travail, soit grâce à la station debout, la marche légère sur tapis roulant, le desk cycle, pédalier portatif, ou le vélo stationnaire. Le travail assis sur un ballon ou une pastille d'exercice posée sur un siège agit aussi positivement sur le physique, en améliorant particulièrement l'équilibre et le travail abdominal. Martin Charette travaille dans la même entreprise depuis 18 ans. L'automne dernier, il en a eu assez de rester assis 7 heures par jour. Il passe la moitié de son temps à écrire au clavier et l'autre à analyser des documents à sa table de travail. Depuis le mois de novembre, il roule entre 1 et 2 km heure tout en travaillant grâce à un pédalier d'exercice installé sous son bureau. Honnête, je me sens plus efficace au travail, j'ai plus de concentration, constate le jeune homme qui s'estime par ailleurs en bonne santé physique. Marie-Ève Mathieu, professeure de kinésiologie à l'Université de Montréal et chercheuse au CHU Sainte-Justine en santé métabolique, s'intéresse depuis longtemps aux effets du bureau actif. Nous sommes en train de séparer de plus en plus la sédentarité de l'inactivité physique et de sortir du dogme que l'exercice doit être nécessairement intense. Il y a aussi de la place pour les petits mouvements, autrefois snobés, et qui gardent les muscles actifs, constate Mme Mathieu. Une étude d'envergure portant sur 118 participants, intitulée « A Systematic Review of Standing and Treadmill Desks in Workplaces », parue en novembre 2014 dans le journal scientifique Preventive Medicine, fait état d'une diminution du taux de glycémie et d'une hausse du bon cholestérol grâce à l'utilisation du tapis roulant à vitesse modérée et du bureau à station debout. Un tapis roulant au bureau peut par contre rapidement devenir gênant en raison du bruit et à plus de 1 000 l'unité n'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais le travail en position debout, à l'aide d'un équipement beaucoup plus abordable, comme le Varidesk, apporte aussi un bénéfice considérable en accroissant la dépense énergétique. Travailler en position debout augmente de 50 % la dépense énergétique par rapport à une position assise, Marie-Ève Mathieu. Elle souligne que plus une personne est en surpoids, plus elle bénéficiera de la station debout, car elle porte une charge plus lourde. La productivité n'est pas en reste. Une étude réalisé à l'Université de Montréal et publié en mars dernier dans le journal Forum, conclut que marcher en travaillant améliore beaucoup le travail de mémorisation et d'attention. La recherche, réalisée par une équipe de Tech 3 Lab de HEC Montréal, sous la direction d'Élise Labonté-Lemoine, a permis de constater une amélioration de la rétention d'informations chez les étudiants actifs. Pendant 40 minutes, 18 étudiants devaient lire un texte tout en étant interrompus par l'arrivée de courriels. La moitié des participants lisaient sur un tapis maintenu à une vitesse de 2,25 km/h, tandis que l'autre moitié accomplissait la tâche assise de façon habituelle. Les résultats ont montré que la probabilité de répondre correctement était de 35 % plus élevée chez les étudiants marcheurs.
N'oublie pas ton casque. Signale à gauche et à droite. Arrête, regarde, écoute. À bicyclette, suis le code de la route, on fait le boogie. À vélo, on fait le boogie. À vélo, on fait le boogie. Chaque fois qu'on monte en vélo. Si tu roules dans la rue et tu es perdu, ne panique pas, reviens sur tes pas, on fait le boogie. À vélo, on fait le boogie. À vélo, on fait le boogie. Chaque fois qu'on monte en vélo. N'oublie pas ton casque. Signale à gauche et à droite. Arrête, regarde et écoute. À bicyclette, suis le code de la route, on fait le boogie. À vélo, on fait le boogie. À vélo, on fait le boogie. Chaque fois qu'on monte en vélo. Sois gentil, attends ton ami. Partage son eau quand il fait chaud. On fait le boogie. À vélo, on fait le boogie. À vélo, on fait le boogie. Chaque fois qu'on monte en vélo. N'oublie pas ton casque. Signale à gauche et à droite. Arrête, regarde et écoute. À bicyclette, suis le code de la route, on fait le boogie. À vélo, on fait le boogie. À vélo, on fait le boogie. Chaque fois qu'on monte en vélo. N'oublie pas ton casque. Signale à gauche et à droite. Arrête, regarde et écoute. À bicyclette, suis le code de la route, on fait le boogie. À vélo, on fait le boogie. À vélo, on fait le boogie. Chaque fois qu'on monte en vélo. On fait le boogie. Chaque fois qu'on monte en vélo. On fait le boogie. Chaque fois qu'on monte en vélo.
Eh bien, vous l'aviez sans doute reconnu, c'est le boogie à vélo. Alors, le titre, de le nom de l'interprète est difficilement prononçable, mais je vais essayer. C'est Will Stroot, S-T-R-O-E-T, pour ceux qui veulent vraiment faire du boogie à vélo. Voilà. L'art qui fait du bien, c'est par Kenza Beni. C'est dans le Véro magazine de l'été 2015, qui va bientôt arriver, j'espère. Jürgen est tellement heureux de pouvoir assister aux ateliers d'art-thérapie du musée. Lui, qui n'a plus d'intérêt pour rien dans la vie, ni de concentration. Il peut passer des heures à peindre. Alors qu'il pourrait rester au lit toute la matinée, les lundis et mardis, il se réveille, s'habille et se prépare seul afin d'être prêt pour cette activité espérée. Alice, l'épouse de Jürgen, a livré ce témoignage extrêmement touchant à la soirée organisée par le Musée des Beaux-Arts de Montréal. L'automne dernier, pour fêter le 15e anniversaire de son programme « Musée en partage ». Cela fait maintenant 6 ans que Jürgen, atteint d'une maladie apparentée à l'Alzheimer, bénéficie de ces ateliers organisés par le musée avec la Société Alzheimer de Montréal et sa compagne tenait à dire combien ça lui faisait du bien. « C'est puissant l'art !» s'exclame à son tour Jasmine Decerot, la responsable de l'atelier d'art de l'organisme La Rue des Femmes, qui vient en aide aux femmes en situation d'itinérance. Celles que nous accueillons ici n'ont pas de vie facile. Elles ne savent pas où elles vont dormir le soir et pourtant, elles viennent peindre. Elles se donnent un espace où exister et s'exprimer en sécurité. Elles améliorent leur estime d'elles-mêmes et reprennent un peu la maîtrise de leur vie. Les différentes thérapies par les arts sont effectivement très puissantes, affirme José Leclerc, professeur de thérapie par les arts à l'Université Concordia. L'art-thérapie, qui utilise les arts visuels, la danse-thérapie, la musicothérapie ou la dramathérapie par le théâtre permettent tous de s'exprimer par la création pour améliorer le mieux-être sur les plans psychologiques et émotionnels. On le sait toutes et tous, il est souvent difficile d'utiliser des mots pour expliquer nos angoisses, nos colères, nos douleurs, nos peurs conscientes ou inconscientes. Comment le faire autrement ? C'est justement le rôle de ces thérapies qui permettent d'exprimer symboliquement ce qu'on vit grâce au langage non-verbal, explique Pierre Plante, psychologue, art-thérapeute et professeur de psychologie à l'UQAM. D'où leur utilité particulière auprès des enfants qui ont de la difficulté à utiliser le langage, soit parce qu'ils ne le connaissent pas encore, soit parce qu'ils ont des limites mentales. Toutefois, faut-il avoir des aptitudes artistiques pour effectuer une thérapie du genre ? Pas du tout, répondent les spécialistes. Il suffit d'éprouver de l'intérêt pour l'activité choisie, art visuel, musique, théâtre ou danse. Car le sens esthétique ou le savoir-faire n'ont aucune importance dans ce type de démarche. L'art thérapeute n'interprète pas votre collage ou la musicothérapeute ne tend pas l'oreille pour savoir si vous chantez faux. Que ce soit au cours d'ateliers de groupe ou de séances individuelles, un des objectifs principaux est de permettre aux individus d'entrer en contact avec leurs émotions, de les exprimer et de les intégrer pour soulager leur souffrance intérieure. Ce qui est vraiment thérapeutique dans ces activités, c'est la créativité, fait valoir Pierre Plante. En traduisant notre vécu grâce à notre imaginaire, on multiplie les perspectives sur notre état de vie, mais aussi les solutions qu'on peut apporter à nos problèmes, dit le thérapeute. Il travaille surtout avec les enfants qui ont des difficultés relationnelles avec leurs parents, les personnes en dépression ou celles aux prises avec des problèmes existentiels. La musicothérapeute Micheline Espérance travaille avec une toute autre clientèle que Pierre Plante. Les personnes âgées, en perte d'autonomie, qui fréquentent le centre de jour de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Mais elle constate, elle aussi, les bienfaits de l'art-thérapie. Dans nos ateliers, nous jouons de la musique et nous en écoutons. Nous chantons et nous discutons de ça, de ce que ça suscite en nous. Ça renforce la communication, car pour chanter ou jouer de la musique en groupe, il faut être à l'écoute des autres et pouvoir leur répondre. Certaines personnes se font dire qu'elles n'écoutent pas assez et prennent ainsi conscience de leur comportement. D'autres, plus timides, sont invitées à prendre leur place. Ces ateliers jouent aussi un grand rôle dans la socialisation et, comme les gens y passent de bons moments, ça les motive à venir au centre de jour. Et puis, c'est un espace pour exprimer ses émotions en toute sécurité. Je vois souvent des personnes pleurer dans mes ateliers, soit parce qu'une chanson leur rappelle un événement triste, soit parce qu'elles ont accumulé de la peine. Et je suis contente qu'elles puissent le faire là. Ça prouve qu'elles ont confiance en moi et dans le groupe. Actuellement, les arts-thérapies sont en pleine expansion au Québec, fait observer la professeure Josée Leclerc. De plus en plus d'institutions offrent ces services et c'est tant mieux. On trouve ainsi des art-thérapeutes dans différents milieux, des écoles, des hôpitaux, des CLSC ou des prisons. Leurs clientèles sont variées, des personnes handicapées, d'autres qui souffrent de cancer, d'Alzheimer ou de maladies mentales, des victimes d'agressions sexuelles ou de violences, des enfants traumatisés par la guerre, etc. Au Musée des Beaux-Arts de Montréal, les groupes qui assistent aux visites guidées et aux ateliers créatifs organisés dans le cadre du programme Musée en partage sont aussi très diversifiés. Nous menons des projets de recherche avec l'Institut de cardiologie de Montréal et avec l'Institut universitaire en santé mentale Douglas pour évaluer l'effet de l'art-thérapie sur les personnes souffrant de troubles alimentaires, explique Marilyn Lajeunesse, responsable des programmes éducatifs adultes et groupes communautaires du musée. Mais nous travaillons surtout avec des organismes communautaires comme l'Itinéraire, le Tour de Lire, un centre d'alphabétisation, le Centre d'apprentissage parallèle, qui s'occupe de personnes aux prises avec des problèmes psychologiques. Ce qui en ressort, créer rend les gens heureux, répond-elle sans hésiter. Non seulement ces hommes et ces femmes ont du bonheur à dessiner, à peindre ou à faire des collages, mais ils ont aussi accès à un environnement culturel d'où ils sont souvent exclus.
Alors, les femmes sont plus frileuses que les hommes, mythe ou réalité? Donc, dans la presse du 14 avril, c'est réalité. Le retour du beau temps marque, dans certains foyers, une trêve à la guerre du thermostat. Une guerre bien réelle. 42 % des hommes admettent baisser la température sans en parler à leur conjointe, selon un récent sondage mené par The Green Age au Royaume-Uni. Il est vrai que les femmes manifestent plus souvent d'insatisfaction envers la température, particulièrement lorsqu'il fait froid, selon une étude scientifique publiée en 2011 par une équipe finlandaise. D'accord, mais ont-elles vraiment plus froid? À ce sujet, la littérature scientifique n'est pas claire. Une étude publiée dans The Lancet en 1998 conclut que les femmes ont une température corporelle légèrement supérieure à celle des hommes, 36,6 Celsius contre 36,3 Celsius, mais des mains plus froides, 30,7 Celsius contre 32,2 Celsius. Une moins grande circulation sanguine aux extrémités pourrait causer une plus grande sensibilité au froid. Autres hypothèses? Les hommes auraient un métabolisme plus élevé et, comme ils sont grands, un plus grand ratio de masse corporelle par rapport à la surface de leur peau.
Les masques, avouons-le, on les trouvait un peu étranges lorsqu'ils sont débarqués d'Asie l'an dernier. Aujourd'hui, on ne jure que par ces masques en tissu gorgés d'actifs ciblés. La technique, on pose le masque sur son visage parfaitement démaquillé, puis on se relaxe de 10 à 15 minutes. En tissu ou en gel, ils sont encore plus divins lorsqu'ils libèrent le froid emmagasiné au cours d'un passage au frigo. Le geste qui sauve, nul besoin de rincer. On masse délicatement le surplus de produit pour le faire pénétrer. Ça, c'est quand il va faire très, très, très chaud.
Bon retour sur le kiosque magazine de Canal M. J'ai avec nous un article de « Les bactéries qui nous rendent belles ». C'est un article de Catherine Girard dans le Elle Québec de mai 2015. Des petits pots remplis de probiotiques. Et oui, de plus en plus de produits de beauté en contiennent. Qu'on se le dise, la cosmétologie de l'avenir s'annonce bien vivante. Nous ne les voyons pas, mais elles sont là. À la surface de notre peau grouillent en effet 1000 milliards de bactéries. L'industrie cosmétique a longtemps tenté de les exterminer, que ce soit à l'aide de gels antiseptiques, de lotions astringentes ou de peelings chimiques. Mais voilà qu'elle leur fait à présent les yeux doux. Certains fabricants vont même jusqu'à en ajouter de façon délibérée à leur formule. Notre épiderme abrite plus de 500 espèces bactériennes, de même que les levures et les champignons, affirme Richard Martin, chef des technologies émergentes chez L'Oréal. Ensemble, ces petites bestioles forment ce qu'on appelle le microbiote cutané. Certaines d'entre elles sont nuisibles, mais la plupart sont bénéfiques et ce sont celles-ci qui nous intéressent. En effet, elles jouent un rôle essentiel dans le maintien d'une peau saine. Le microbiote cutané constitue une barrière qui nous protège contre les infections et l'inflammation, comme notre flore intestinale nous aide à lutter contre certaines maladies. Quelques bactéries auraient même un pouvoir antioxydant. Toutefois, la flore cutanée, à l'instar de la flore intestinale, peut souffrir d'un déséquilibre. Pour tuer les vilaines bactéries, on a parfois recours à des antibiotiques et à des savons astringents. Mais ces produits détruisent du même coup les bons micro-organismes, indique le docteur Patrick Paquette, président de l'Association des microbiologistes du Québec. Nous devenons alors plus vulnérables aux agents pathogènes, notamment aux staphylocoques, qui sont à l'origine de nombreux problèmes de peau comme l'impétigo. Les frottements répétés, les gommages trop abrasifs, les rigueurs du climat, les fluctuations hormonales et les agents de conservation contenus dans certains cosmétiques peuvent eux aussi perturber notre microbiote cutané. Pour prévenir un tel déséquilibre, les produits peuvent agir sur deux fronts. Il est notamment possible de favoriser la croissance des micro-organismes bénéfiques pour l'épiderme en leur procurant des compléments nutritionnels, indique Richard Martin. Le nouveau Lipicore Baume AP+, que La Roche-Posay a lancé automne dernier, contient par exemple du mannose, une forme de sucre dont raffolent nos bonnes bactéries. En plus du mannose, ce soin compte des extraits de bactéries parmi ses ingrédients actifs. Même principe pour le baume rolipidant Xeracalm d'Avène. Après des années de recherche, les chercheurs de cette marque ont découvert que les propriétés anti-inflammatoires et apaisantes de l'eau thermale d'Avène ne provenaient pas uniquement des minéraux qu'elle contient, mais aussi d'un micro-organisme qui n'appartient qu'à elle seule, Aquaphyllus dolomiae. À l'aide de manipulations biotechnologiques, nous avons sélectionné les meilleures substances actives de cette bactérie, puis nous les avons ajoutées aux produits de la gamme, raconte Anne-Laure Nguyen U Lai, directrice de la stratégie et du développement marketing d'Avène. C'est un peu comme si nous avions utilisé de l'huile essentielle de menthe plutôt que de simplement mélanger des feuilles de menthe broyées dans de l'eau. On ne prend pas ce qui nous intéresse à l'intérieur, on ne prend que ce qui nous intéresse à l'intérieur du micro-organisme et c'est beaucoup plus efficace. Fort bien, mais les innovations intégrant des bactéries sont-elles sans danger? Tous nos composants actifs sont soumis à des études toxicologiques extrêmement poussées, répond Madame Nguyen U Lai. Et après avoir démontré qu'ils étaient très bien tolérés par la peau, on doit prouver l'efficacité de nos produits et les soumettre à des études cliniques très exigeantes. Contrairement à beaucoup d'autres soins qui sont habituellement testés sur quelques dizaines de volontaires, la gamme Xeracalm a été testée sur 1288 patients. Et les résultats ont fait l'objet d'une publication dans le numéro de juillet du réputé British Journal of Dermatology. De quoi convaincre les plus dédaigneuses d'entre nous. À chacun ses microbes. La composition du microbiote de chaque être humain est influencée par différents facteurs. L'âge, le sexe, l'environnement, etc. Il y a autant de microbiotes qu'il y a d'individus, affirme le docteur Paquette, président de l'Association des microbiologistes du Québec. En fait, notre signature microbienne est aussi unique que notre profil ADN. C'est d'ailleurs pour cette raison que deux personnes soumises aux mêmes perturbations, par exemple un traitement aux antibiotiques, peuvent avoir des réactions différentes. Après les microbiotes sur la peau, qu'en est-il des agents de conservation sur nos aliments? C'est un article de Catherine Lefebvre dans La Presse du 5 mars. Le nitrite et le nitrate, par exemple, à quoi ça sert? À freiner la croissance bactérienne, comme celle du Clostridium botulinum, responsable du botulisme, et à fixer la couleur et la saveur dans les charcuteries. À noter que si les nitrates peuvent être ajoutés artificiellement, comme dans les charcuteries, il se trouve naturellement dans certains aliments, par exemple le céleri ou les épinards, les betteraves. Est-ce nocif? Oui, mais au cours de la digestion, les nitrates se transforment en nitrites, puis potentiellement en nitrosamines lorsqu'ils entrent en contact avec les protéines des aliments, comme la viande et les charcuteries. Ce sont les nitrosamines qui seraient cancérigènes. On les évite? Non, puisque la vitamine C présente dans les fruits et légumes inhibe la formation de nitrosamines. Ce qu'on évite, ce sont les charcuteries.
Alors, parents zen, mode d'emploi. Je pense que ça va aider plusieurs personnes d'avoir un tel article. Ça a été écrit par Sylvia Galipo dans la presse Plus du 27 avril. Non, il n'est pas utile de donner des ordres, encore moins des punitions. Hausser le ton, c'est contre-productif, tout comme une foule d'autres petits gestes que nous posons tous, quand même quotidiennement, avec nos enfants. Votre fille fait une crise? Proposez-lui un verre d'eau, suggère aussi la psychothérapeute française Isabelle Filiozat, qui s'appuie ici sur les dernières recherches entourant le développement du cerveau des enfants pour proposer des outils très concrets aux parents d'aujourd'hui. Invitée la semaine dernière au festival Métropolis Bleu, nous l'avons rencontrée pour discuter de ces fameux outils. Rien ne sert de lever le ton. Notre objectif en levant le ton, c'est d'obtenir que notre enfant nous écoute, explique la psychothérapeute d'une voix évidemment douce. Or, en levant le ton, nous activons au contraire leur niveau de stress. Du coup, ils subissent une attaque et leur cerveau leur dicte de fuir ou de s'immobiliser. L'enfant va soit se rebeller, soit fuir ou s'immobiliser. En tout cas, il ne va pas nous écouter. Quoi faire alors? Travailler en amont, répond Isabelle Filiozat. Au lieu de crier à son enfant qui risque de traverser la rue seul, « Donne-moi la main », il s'agit de le préparer, dans un souci de tous les instants, à l'importance de cette règle. « Je sais que je veux que mon enfant traverse la rue en me donnant la main », poursuit-elle. « Donc, je vais préparer mon enfant, répéter les règles. Si je joue avec ses peluches, répéter aux peluches qu'il faut traverser en tenant la main. » Les ordres sont contre-productifs. Pour tous les humains, à part en situation d'extrême danger, tout le monde par terre, l'ordre est contre-productif, tranche la psychothérapeute. Pourquoi? Parce que l'ordre est entendu par notre cerveau verbal, mais le passage au cerveau préfrontal ne se fait pas. Or, le cerveau préfrontal est celui qui nous donne la capacité de décider de nos comportements, d'avoir un libre arbitre. Si on exige un comportement sans considérer le libre arbitre, on déclenche un stress, donc une rébellion. Quoi faire alors? On l'observe très clairement dans les classes. Si vous exigez des enfants qu'ils ouvrent leur cahier à la page 15, ils ne vont pas le faire ou le faire à reculons. Si vous leur demandez à quelle page nous sommes rendus, la réaction est complètement différente. Idem avec un enfant à qui l'on ordonne d'aller au bain ou de s'habiller. Essayez de lui proposer une course à la place, ou de lui demander s'il préfère son canard jaune ou son bateau bleu, une robe ou une jupe. En mobilisant le cerveau préfrontal, il est disponible pour apprendre. Les punitions ne marchent pas. Et tous les parents le savent, dit-elle. Pourquoi alors continuons-nous à donner des punitions? Parce que ça soulage le parent. Ça donne l'impression de faire quelque chose. Ça marche pour contraindre un enfant, mais ça ne règle rien. Avant 13 ans, l'enfant n'a pas de réelle compréhension des relations de cause à effet. Le cerveau a du mal à apprendre de ses erreurs. En plus, la punition déclenche une méfiance. On rompt la relation et l'enfant est habité par un sentiment d'injustice. Selon elle, la punition se trompe surtout de cible. La punition s'adresse au comportement. Or, le comportement n'est qu'un symptôme de quelque chose. Seules les pédagogies qui vont s'adresser aux causes du comportement vont avoir un effet durable. Quoi faire alors? Responsabiliser l'enfant, répond la psychothérapeute. Votre enfant a volé le jouet d'un ami? Il faut l'aider à prendre conscience de l'importance de son comportement sur l'autre, le faire écouter l'autre et l'éduquer à la résolution de problèmes. Il va arriver lui-même à la conclusion « je le lui rends » et chercher à faire quelque chose pour réparer la situation. Parce que, souligne-t-elle, aucun enfant ne désire réellement faire du mal à un autre. Face à un enfant en crise, offrez un verre d'eau. Un verre d'eau? Oui, insiste Isabelle Filiozat, puisque bien des crises sont en fait des réactions à une situation de stress. Le contact du verre dans la main distrait le cerveau et l'oblige à sentir quelque chose, ce qui ralentit le rythme cardiaque. Le fait de boire de l'eau va en plus hydrater les cellules et donner plus de possibilités au cerveau de faire face au stress. En prime, ajoute-t-elle, en tenant la main à l'enfant, le parent lui fournit de l'attention. Et cela fournit de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Cela va diminuer l'excitation de l'amygdale, donc le stress va diminuer à son tour. Ah bon? Faut-il le rappeler? Aucun enfant n'aime faire de crise, dit-elle. Il a au contraire besoin d'outils pour les gérer. La question du temps. Si, comme nous, à la lecture de toutes ces suggestions, vous vous dites que dans le feu de l'action, on n'a pas toujours le temps de travailler en amont, d'éduquer à la résolution de problèmes ou de laisser l'enfant trouver lui-même une réparation, Isabelle Filiozat vous répondra que tout cela finira au contraire par vous faire gagner du temps. Gagner du temps? Parfaitement, insiste-t-elle. Parce qu'en réalité, on perd énormément de temps à répéter encore et à punir. En plus, on perd dans la qualité de la relation, dit-elle. Selon elle, 10 minutes de jeu avec un enfant par jour améliore déjà grandement la relation. C'est impressionnant, dit-elle. L'enfant est plus à l'écoute et désire davantage coopérer. Et un enfant qui coopère naturellement, finalement, ça fait gagner du temps. Mythe, les cas de cancer sont plus nombreux que jamais. Vraiment? Réalité, c'est vrai qu'on diagnostique chaque année au Canada un nombre croissant de cancers. L'an dernier, on comptait quelque 190 000 nouveaux cas, soit 30 % de plus qu'il y a 10 ans. Mais cela est dû essentiellement à l'accroissement démographique et au vieillissement de la population, explique André Beaulieu, porte-parole de la Société canadienne du cancer. Il souligne que 89 % des nouveaux cas de cancer sont détectés chez les 50 ans et plus. Bonne nouvelle, grâce à l'amélioration de nos habitudes de vie et au dépistage, le risque de contracter le cancer, taux d'incidence, lui est en baisse chez les hommes depuis le milieu des années 90. Chez les femmes, le taux d'incidence augmente encore très légèrement, mais tend à se stabiliser. Cela dit, un cancer progresse plus que les autres, tant chez les hommes que chez les femmes, le cancer de la peau.
Des vieux volcans glissent tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, des idées fatales. Un regard de l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, voyage. Chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes. Voyage, voyage dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés. Un regard de l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage. Voyage, voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, voyage, et jamais ne revient. Mmh.
Eh bien, c'était The Lost Fingers et qui reprenait Voyage, Voyage. Les voyages forment la jeunesse et le caractère. C'est un article de Vincent Marissal dans le Véro Magazine de l'été 2015. Selon un dicton connu, le plus important lorsqu'on voyage, ce n'est pas la destination, mais bien le trajet pour s'y rendre. Je ne sais pas qui a pondu ça, mais cette personne a certainement vécu dans l'ère de l'aviation, n'a certainement pas vécu avant dans l'ère de l'aviation civile moderne. Il fut un temps, pas si lointain, où j'adorais voyager en avion. Ma valise était toujours prête, à portée de main, au cas où un reportage, des vacances ou une campagne électorale m'aurait attiré ailleurs. Aujourd'hui, chaque fois que je reviens d'un aéroport, je la vide prestement et je la range dans un coin sombre où je l'oublie un bon moment. Le problème n'est pas la destination, c'est le trajet qui me tue un peu chaque fois. Avant, je voyageais avec l'enthousiasme d'un foodie qui découvre un nouveau resto. Aujourd'hui, je me traîne vers l'aéroport avec l'angoisse d'un hypochondriaque qui se rend chez son médecin. Le plaisir de voyager en avion a disparu en même temps que les Twin Towers de New York le 11 septembre 2001. Il y avait eu de grandes alertes avant. Vous vous souvenez, à la fin des années 90, on nous faisait marcher dans des bacs de désinfectants pour lutter contre la maladie de la vache folle. Mais rien de comparable au grand choc du 11 septembre. Le constat est détestable. Les terroristes, sur ce point, ont gagné. L'automne dernier, j'ai constaté de visu la hantise du terrorisme lorsque mon avion, sur le point de décoller d'Athènes, a été immobilisé puis évacué en catastrophe à cause d'une fausse alerte à la bombe. Du coup, j'ai manqué mon vol de correspondance à Paris, un désagrément suivi de 24 heures d'attente et d'échanges irritants avec Air Canada. Mais bon, mettons tout cela sur le compte d'une alerte à la bombe, un événement plutôt rare qui échappe au contrôle des compagnies aériennes et des autorités aéroportuaires. Celles-ci, toutefois, n'ont pas besoin d'événements rarissimes pour compliquer la vie des voyageurs. On dirait même qu'elles se livrent à un concours pour savoir lequel des deux grands maux de notre époque, la crainte du terrorisme ou les restrictions budgétaires, empoisonnera le plus l'existence des passagers. Cela commence la veille du départ, pendant l'enregistrement en ligne, régulièrement hors service. Cela se poursuit le lendemain, à la chaleureuse borne d'enregistrement automatisée de l'aéroport. Ensuite, c'est la file pour voir un préposé au sol. Oui, 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 un être humain, dont le rôle est désormais limité à vous faire passer le test de la valise. Un excédent de poids ? Ah ah, coupable ! Une deuxième valise ? Ouh là là, votre compte est bon. Mais quelle idée aussi de voyager avec des valises ! Tiens, l'hiver dernier, j'ai fait Barcelone-Paris-Montréal sur Air France avec une deuxième valise, contenant un peu de shopping pour les enfants. Combien ? 75 euros, rien que ça. Après ces petits plaisirs au comptoir, on passe à la sécurité, où nous attendent des agents qui, visiblement, compensent leur manque d'enthousiasme à l'ouvrage par le surplus d'autoritarisme que procure le port de l'uniforme. Tout cela ne s'arrange pas une fois qu'on est à bord. Et là, les désagréments n'ont rien à voir avec la crainte du terrorisme. Ils sont plutôt dus à la cupidité des compagnies aériennes qui bousillent leurs produits et leurs images sans relâche sur l'autel de la rentabilité. Autrefois, on nous accueillait à bord. Aujourd'hui, on nous endure. Au palmarès, bouffe infecte quand il y en a, service douteux, écouteurs merdiques à vendre et manque d'espace, le plus populaire. Comme je n'ai pas les moyens de voyager en classe gradure, je me contente des trois autres classes. Bétail, super bétail ou super super bétail. Et comme je mesure 1m90, ce qui n'est pas du gigantisme tout de même, je songe à poursuivre les compagnies aériennes pour traitement inusité et cruel après chaque vol de plus de 2 heures. Les études internationales démontrent que nous grandissons en moyenne de 1 cm par décennie. Une donnée qui, visiblement, a échappé aux transporteurs aériens. Tout ça pour dire qu'en ce début d'été, je songe avec plaisir à l'idée de partir à la mer avec la marmaille dans ma rutilante Sienna, moi qui pourtant déteste conduire. Là-dedans, au moins, je peux reculer mon siège et avant que je monte à bord, personne ne me demande avec un air bête d'enlever chaussures et ceinture. Et puis, les seules alertes seront celles qui m'obligeront à quitter momentanément l'autoroute pour un arrêt à une halte routière.
PepsiCo va renoncer à l'aspartame ajouté au Pepsi Diet à compter du mois d'août aux États-Unis. Aucun changement n'est prévu au Canada, selon ce qu'a expliqué Sandy Liver, directrice des communications de PepsiCo Canada à la presse canadienne. Chez nos voisins du Sud, l'entreprise va remplacer l'aspartame par du sucralose, Splenda, et de l'acésulfame de potassium, un autre édulcorant. Les buveurs de cola diet nous ont dit qu'ils voulaient du Pepsi diet sans aspartame et nous allons leur en offrir, a expliqué Seth Kaufman, un des dirigeants de PepsiCo en Amérique du Nord, cité dans plusieurs médias. Santé Canada fixe à 40 mg par kilomètre de poids corporel par jour la dose journalière admissible d'aspartame. Cela équivaut à environ 10 canettes de boissons sucrées à l'aspartame par jour, selon Extenso, le centre de recherche de référence pardon, sur la nutrition de l'Université de Montréal. Évidemment, Santé Canada fixe à 40 mg par kilogramme le poids corporel par jour de la dose journalière admissible et non des kilomètres. Merci.
Alors, santé dentaire, vrai ou faux dans la presse plus du 7 avril, qui fait un peu référence à la semaine passée, encore on est encore dans le mois de la santé bucco-dentaire. Alors, la surabondance d'informations en matière de santé bucco-dentaire nous amène souvent à ne plus savoir quoi penser. Sauriez-vous distinguer le vrai du faux? Pour le savoir, faites notre quiz. 1. Le lait est bon pour les dents. Vrai. Les données issues de nombreuses études démontrent que le lait est bénéfique pour la santé bucco-dentaire. Ce produit laitier joue un rôle clé dans la prévention de certains problèmes de santé dentaire, tels que la carie dentaire et la parodontite. Il fournit entre autres à nos dents des minéraux et nutriments, calcium, vitamine D, phosphore, etc., qui les rendent plus durs et plus difficiles à attaquer. Le sucre cause les caries dentaires. Vrai. Hélas! Les aliments riches en sucre favorisent la carie dentaire. Les bactéries présentes dans la plaque dentaire produisent, lorsqu'elles se trouvent en présence de sucre, un acide qui attaque l'émail des dents et en le déminéralisant. Avec le temps, un très petit trou se forme sur la surface de la dent, formant ainsi une carie. Le vin rouge tache les dents. Vrai, riche en tanins, le vin rouge est bien connu pour colorer les dents. Sachez toutefois que le vin blanc est aussi mauvais pour vos dents. Bien qu'il ne tache pas directement, il contient beaucoup d'acide favorisant la fixation de la couleur si vous consommez ensuite d'autres aliments ou boissons qui tachent les dents. Cela dit, selon une étude récente, le polyphénol, antioxydant naturel, présent dans le raisin et donc dans le vin rouge, protégerait des caries. Mais ce n'est pas parce que cet antioxydant se trouve dans le raisin qu'il faut augmenter votre consommation d'alcool pour autant. Le biocarbonate de soude blanchit les dents. Vrai, le biocarbonate de soude aide à blanchir les dents. Grâce à ses propriétés abrasives douces, il permet de polir l'émail des dents et d'éliminer les taches en surface, telles que celles laissées par la nicotine, le café et le thé. Cet ingrédient entre d'ailleurs dans la composition de nombreux dentifrices blanchissants. Consultez votre dentiste ou votre pharmacien pour choisir le produit qui vous convient le mieux. Alors, c'est encore moi qui parle, mais merci beaucoup à Jean-Sébastien Laliberté, à la régie, aux choix musicaux qui sont toujours très pertinents. Merci à Dominique Meillet-Carpe et à Sophia Larabie. Pour avoir accès à cette émission, vous pouvez consulter le site www.canalm.org ou celui de vusezvoix.com.
Au revoir!